Bonjour Sybille et bonjour à tous. Alors, avec ma chronique de la semaine dernière, je pense vous avoir tous mis en état de dépression intense. Faut dire que passer 6 minutes à parler de mariage d'enfants de 9 ans, de peine de mort et de chasse aux homosexuels, c'est un coup à ce que toutes les pharmacies de Strasbourg soient en rupture de Xanax. Alors, aujourd'hui, je vais me rattraper. Et je vais vous parler au contraire de ces petites victoires que notre humanité a remportées sur le plan des droits humains récemment. Histoire de vous redonner un peu d'espoir et d'apporter un peu de notes positives. Alors allons-y et voyons ce que notre monde a pu produire de beau ces dernières semaines. On va commencer par nos voisins anglais. Récemment, la haute chambre du Parlement britannique, la Chambre des Lords, a voté la fin de la criminalisation des femmes qui interrompent leur grossesse et ce jusqu'au moment de l'accouchement. Avant la réforme, l'avortement restait construit comme une infraction pénale au Royaume-Uni, avec des exceptions. Et au-delà de 24 semaines, l'avortement médical n'était possible que dans des circonstances particulières, comme le risque grave pour la santé ou la vie de la femme, ou un risque grave d'anomalie fœtale. Mais avant la réforme, si une femme avortait en dehors de ce cadre, par exemple en prenant elle-même des pilules abortives très tardivement, elle pouvait être poursuivie pénalement. Ce qui avait choqué, dans plusieurs affaires récentes, des femmes avaient été enquêtées, poursuivies, parfois après une fausse couche, une mort fœtale ou un avortement auto-administré. Avec la réforme, ce n'est désormais plus possible. Si une femme met fin elle-même à sa grossesse au-delà de 24 semaines, elle n'est plus censée risquer une poursuite pénale pour cette raison. L'objectif est d'éviter que des femmes, souvent dans des situations de vulnérabilité, de déni de grossesse, de violence, de précarité ou de détresse, soient traitées comme des criminelles. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'avortement au-delà de 24 semaines est autorisé comme acte médical ordinaire. Non, la réforme ne change pas le cadre médical. C'est simplement qu'on dépénalise l'avortement tardif pour ces femmes. Et je rappelle que cette démarche s'inscrit dans le mouvement initié par la France en 2024, qui est devenu le premier pays à inscrire l'avortement comme liberté garantie dans sa constitution, rendant de facto impossible sa criminalisation. Allons maintenant complètement ailleurs et passons au Brésil, où les peuples autochtones ont réussi à préserver leurs terres ancestrales et faire un joli pied de nez au président Lula. En effet, le gouvernement brésilien de Lula avait mis en place un décret qui ouvrait la voie à des concessions privées pour la gestion de 3000 km de fleuves amazoniens au profit de l'agrobusiness. Or, pour les communautés autochtones d'Amazonie, ces fleuves étaient bien plus que des actes de transport, mais des territoires de vie ancestraux dont ils dépendaient pour se nourrir. Et face à la mobilisation des communautés autochtones, dont près d'un millier de militants ont manifesté pendant 33 jours devant l'entrepôt Cargill, l'un des plus grands négociants agroalimentaires, le gouvernement de Lula n'a pas d'autre choix que d'abroger le décret. Les fleuves d'Amazonie ne sont désormais pas privatisés grâce au combat des peuples autochtones et les droits de ces derniers sur leurs terres sont désormais préservés. Allez, allons en Australie à présent pour une décision un peu similaire. En Australie, la justice fédérale a ordonné au groupe minier Fortescue de verser 108 millions de dollars au peuple autochtone aborigène australien, les Yindjibarni, pour les dommages culturels causés par l'exploitation minière de leurs terres sans leur consentement. En effet, dans le cas de cette exploitation minière, sur des terres aborigènes et sans que ceux-ci ne donnent leur accord, 124 sites aborigènes ont été complètement détruits par l'exploitation de la mine et d'autres ont été considérablement affectés. L'entreprise minière avait même poussé le vice jusqu'à empêcher les aborigènes d'accéder à leurs propres terres sur environ 135 km², ce qui représentait une violation manifeste des droits des peuples autochtones et une expropriation de leurs terres. Or, justice a été rendue avec la décision de la justice fédérale australienne. Cette décision représente l'un des plus importants versements jamais effectués en Australie en vertu des lois sur les droits fonciers autochtones reconnaissant les droits et intérêts des populations autochtones sur leurs propres terres. Une décision dont on espère qui inspirera tous les gouvernements du monde dès lors qu'ils s'en prennent aux peuples autochtones. On va terminer par le Pakistan. En avril 2026, l'Assemblée du Pendjab, province la plus peuplée du Pakistan, a adopté un décret qui fixe à 18 ans l'âge minimum du mariage pour les enfants et fait du mariage d'enfants une infraction non libérable sous caution. En effet, le Pakistan affiche l'un des taux de mariage d'enfants les plus élevés d'Asie du Sud, en particulier dans les communautés rurales à faible revenu. Des experts onusiens avaient par ailleurs exprimé leurs préoccupations concernant les pratiques persistantes et généralisées d'enlèvement et de conversion religieuse forcée par le mariage, touchant des femmes et des filles appartenant à des communautés minoritaires au Pakistan. Au Pakistan, des ONG ont par exemple recensé en 2025 94 cas d'enlèvement, de conversion forcée, de mariage forcé de femmes et de jeunes filles mineures appartenant à des minorités religieuses. Parmi les victimes, 76% étaient hindous, 24% étaient chrétiennes et seulement 18% étaient majeurs. La décision du Pendjab est donc une belle initiative pour lutter contre ce phénomène. Et sur la lancée du Pendjab, le Pakistan a dévoilé récemment un cadre national qui viserait donc tout le pays, visant à mettre fin définitivement au mariage des enfants. Une affaire à suivre, mais qui redonne un peu d'espoir. Alors en conclusion, oui, certains me diront que ce sont de toutes petites victoires. Peut-être. Mais je pense que c'est comme ça que l'on commence, un grain de sable après un autre et encore un autre. Pour qu'une grande loi ou une révolution majeure se fasse, ça ne tombe pas d'un coup du ciel. Ce n'est que le résultat de petits changements comportementaux, par-ci, par-là, qui peu à peu vont façonner notre société et nos comportements. Donc la prochaine fois que vous vous désespérez de l'état du monde, dites-vous que le changement commence avec ce qui est à portée de votre main et que même les actes les plus insignifiants peuvent porter un grand espoir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.